Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, le premier semestre a été très, très compliqué, mais j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission, alors là, exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Parce que c'est la dernière de la saison, et oui, c'est triste un peu quand même. Mais on va se retrouver la saison prochaine. Et surtout, on va faire le bilan du premier semestre. Mais le bilan, c'est intéressant, mais surtout, on va se projeter, évidemment, sur le deuxième semestre avec des gens très brillants qui vont nous dire exactement ce qui va se passer ou sera le cas qu'à la fin de l'année. Vous le savez, pour une émission exceptionnelle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Elle a été une des révélations de ce premier semestre et je viens de lui offrir le deal du siècle pour qu'elle reste avec nous la prochaine saison en Ligue 1, car il y aura bien sûr une prochaine saison. Valentine Hénouz, vous êtes toujours directrice. Je ne veux même pas le dire, votre titre, parce que vous êtes adjointe, ça m'énerve.
D'accord.
Toujours.
Toujours.
Toujours recherche, stratégie, tous ces trucs-là.
Pays voilà. Développé, etc.
Voilà. Dès qu'il a su que le tiers état était entré en force à l'Assemblée et que le peuple se révoltait contre la hausse du pain, il a quitté la cour de Versailles sur son cheval au galop. Louis de Montalembert, merci d'être venu, vous êtes encore tout excité.
Comme vous me folklorisez, pour un peu plus tard dans l'émission, je vous donnerai un cadeau spécial.
Président de Pléiade AM.
Il reprend mon terme folklorisé. Hein.
Le peuple est rentré à l'Assemblée. C'est quand même.
Absolument, absolument.
Il brille comme un soleil sur l'univers des petites valeurs, un soleil qui lui donne d'ailleurs ce teint qui l'a rendu célèbre. Éric Lewin, rédacteur en chef des publications à Abgora, je ne vous ai jamais vu aussi pâle.
C'est la catastrophe. Je vais passer de l'Eden Rock à l'Ibis d'Asbrook ou de Berck-Plage.
Si vous partez en vacances.
Si je peux partir
en
vacances, sinon je dormirai dans la voiture d'Emmanuel.
On ne le présente plus, c'est une légende vivante. Il est à la fois sympathique, très sympathique et très compétent, même si sa mauvaise foi est légendaire. C'est notre gourou et notre ami Emmanuel Le Chip. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez manqué, Emmanuel.
Quand ça?
Pendant les vacances.
Eh bien, comme ça, on sera content. Vous voyez, ce sera un des plaisirs de la rentrée de se retrouver.
Exactement.
Eh oui.
Allez, on démarre avec une nouvelle rubrique. Ça sera le mot de la semaine, mais là, on fait le mot du semestre. Et le mot du semestre, j'ai choisi tout seul. C'est l'inflation allumer le feu. Pas de doute. Pour moi, le mot de 2022, pour l'instant, c'est inflation. On est passé d'un monde en déflation, on en parlait ici tout le temps, à un monde à inflation zéro, à un monde à inflation temporaire, puis à une inflation durable. Et maintenant, c'est une inflation structurelle. Alors, cette inflation, Valentine Hénouz, d'où elle vient? Pourquoi elle a surpris autant les banques centrales et est-ce qu'elle va ralentir?
Cette inflation, déjà, aujourd'hui, c'est un sujet social, politique et économique. Comme vous avez souligné, c'est vraiment pour moi, je partage aussi ce point de vue, que c'est le sujet du semestre. Et je pense qu'on va, se remettre au moment de la crise du Covid. Donc pendant la crise du Covid, on avait les ménages qui avaient accumulé de l'épargne et aussi une certaine frustration de ne pas pouvoir consommer. Et au sorti de cette crise du Covid, il y a eu une accélération de volonté de consommer, mais la demande en face qui n'était pas là. Ce qui a poussé les prix à la hausse. Donc face à ces phénomènes, les banques centrales ont dit « c'est temporaire ». Mais est venue derrière la guerre en Ukraine et aussi la politique zéro Covid en Chine qui ont accéléré les pressions inflationnistes. Et au final, aujourd'hui, si on regarde les prix en énergie, surtout sur la zone euro, on a une croissance des prix de l'énergie de plus de 40% sur la zone euro et les perturbations sur les chaînes de production. On s'attendait au début de l'année à voir des perturbations qui soient beaucoup moins fortes et qui se résorbent au cours de l'année, mais elles sont toujours extrêmement fortes. Et aujourd'hui, on voit beaucoup plus les entreprises qui sont dans une démarche pour s'adapter à ces perturbations pour ces chaînes de production que dans en train de se dire, dans 6 mois, c'est terminé. Donc on voit, ils augmentent les stocks, ils investissent pour diversifier les sources, etc. Donc on est aujourd'hui beaucoup plus dans une inflation qui va être durable parce que à cause des prix sur l'énergie, à cause aussi des coûts vers une transition, vers une économie plus verte, et aussi à cause de ces chaînes de production où les perturbations, on voit ça plus comme un phénomène qui dure.
Vous ne mettez pas trop la responsabilité sur les banques centrales. Moi, j'ai une question pour vous, Emmanuel Le Chip. Vous connaissez les banques centrales, vous connaissez les économistes qui travaillent là-dedans. Et on pose souvent la question, hein. Les gens me disent, mais comment ils ont pu ne rien voir arriver? Parce qu'en fait, l'inflation, on va quand même l'expliquer, elle était là et on savait qu'elle était là avant la guerre en Ukraine. Elle n'a pas démarré avec la guerre en Ukraine. Comment ont-ils pu être aveuglés? Ils ne l'ont pas vu. Comment ont-ils pu juger que c'était temporaire et pourquoi ils se réveillent maintenant?
Ah ouais, il me semble qu'il y a une forme d'asymétrie dans la modernité des politiques monétaires. C'est-à-dire qu'en gros, ça fait 40 ans que tout le monde s'est adapté à vivre dans un environnement déflationniste et que donc il a fallu ajuster finalement les stratégies, notamment après la crise de 2008. Regardez ce que sont devenues les nouvelles doctrines de politique monétaire en période de déflation. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu 30 ou 40 ans plus tôt. La réalité, c'est qu'aujourd'hui...
Non mais on est
personne...
quand même en garde, en éveil.
Non mais
en
attendez,
veille.
Attendez. Aujourd'hui, personne qui travaille, c'est-à-dire quelqu'un qui... aujourd'hui à un boulot et qui n'est pas à la retraite, n'a pas connu de monde inflationniste. Il faut être très clair. La dernière période inflationniste, c'est le milieu des années 80. Si vous étiez au boulot déjà au milieu des années 80, vous avez plus de 60
D'accord.
ans.
Excusez-moi, bon, voilà. Christine Lagarde a été déjà au boulot au milieu des années 80.
Mais oubliez ça. Vous avez vu le temps qu'il aura fallu pour s'adapter au monde déflationniste.
Mais pourquoi ?
Et donc, moi, je dis qu'ils abordent cette période d'inflation qui est totalement nouvelle. Parce qu'il y a quand même...
Nouvelle, mais attendue.
Non, pas
si,
attendue.
Mais totalement attendue.
Mais non, pas tout à fait. Non. Pas les 6%, vous pouvez pas dire ça.
Pas 6%,
attendez, j'étais le premier.
Mais 3 ou 4%, oui.
Mais non. Attendez, on était.
Valentine le dit, elle dit il y a le Covid, on sort du Covid. On sait que quand on a mis trop d'argent dans la machine, on sait que ça va exploser.
Ukraine. Ça, c'est temporaire.
C'est temporaire. En fait, la réalité, c'est que toutes les tendances sous-jacentes qu'on a décrites, elles étaient déjà là, même avant la crise sanitaire. Les relocalisations, la désinternationalisation des processus de production. On savait qu'on allait rentrer dans un super cycle des matières premières, puisqu'on rentre à peu près tous les 10-15 ans dans un super cycle des matières premières.
On le savait.
Oui, mais ça, c'était très différent, Marc. Ça, c'était, encore une fois, moi, ce que j'appelle un changement vers une base de coût de production plus élevée de l'économie mondiale. C'était pas...
Changement majeur.
Mais pas changement majeur, puisque vous avez...
Vous passez de 0 à 3. C'est un changement majeur.
Non.
L'Ukraine, c'est 3 à 6.
Non,
mais
l'Ukraine,
de 0...
c'est que dalle. L'Ukraine, c'est que dalle. Arrêtez avec l'Ukraine. L'Ukraine, c'est que dalle. L'Ukraine, c'est rien, c'est sur les céréales, éventuellement, un peu sur le pétrole. C'est 10 dollars sur les prix du pétrole aujourd'hui.
40%.
Les prix du gaz, les prix du gaz.
Mais c'est pas. Oui, mais... Toute la bouffée d'inflation, c'est pas l'Ukraine.
Non, moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. D'abord, l'inflation n'est pas là depuis 2021. Il y a un choc de prix en 2021. Ça n'est pas encore l'inflation. Parce que vous avez un choc de prix, vous pourriez avoir un contre-choc de prix derrière. L'inflation, c'est quand le choc de prix, parce qu'il dure trop longtemps, finit par se transmettre dans les prix à la consommation, puis derrière dans les salaires. Et donc l'inflation réellement, elle est récente. Donc c'est un peu facile aujourd'hui d'être churchillien et de dire aux banques centrales, vous aviez le choix entre l'inflation et la récession, vous avez choisi l'inflation et vous aurez la récession.
Je le disais il y a 6 mois avant l'Ukraine.
Mais c'était un choc de prix, c'était pas encore. C'était un choc de prix qui était lié vraiment à quelque chose qui était très localisé autour. Et il n'est même pas avéré que ça soit les liquidités des banques centrales, parce que la célérité de la monnaie...
Mais évidemment, c'est la règle de...
La célérité de la monnaie était très faible.
C'est la leçon numéro un d'économie.
Non,
on l'a dit à l'époque. Les banquiers centraux, vous êtes dans les manuels des années 70. Oui. C'est-à-dire que l'inflation, ça fait 40 ans qu'elle est sur les marchés financiers, qu'elle n'est plus dans les magasins.
Exactement, ça c'est
voilà. Et donc l'inflation qui est dans les magasins aujourd'hui, c'est l'inflation post-Covid, c'est un peu l'inflation de l'Ukraine, etc. Mais l'inflation par les banques centrales dont vous parlez, elle est toujours cantonnée sur les marchés. Elle est toujours cantonnée pour les marchés.
Pas
c'est pour
seulement.
Ça que, moi, quand je dis que les banques centrales, elles sont ringardes et qu'elles ont encore les vieux logiciels, c'est aussi par rapport à la réponse qu'elles vont apporter. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que les hausses de taux aujourd'hui, c'est la bonne réponse à apporter?
Mais évidemment que oui.
Évidemment que non. Bien sûr que non.
Alors on va y revenir. L'inflation, elle est aussi dans les entreprises.
Ah mais c'est une cata. Le secteur informatique, c'est entre 5 et 10% de hausse. Les nouveaux entrants,
5 et 10%
par exemple, vous êtes dans l'informatique, vous négociez entre 5 et 10% de progression de salaire. Et pour les nouveaux entrants, c'est entre 20 et 25% par rapport au salaire qu'ils avaient avant. Donc c'est évident qu'il y a des secteurs.
Inflation des salaires.
Inflation des salaires, c'est évident. Et puis la grande problématique derrière, c'est la dépréciation des marges. C'est-à-dire, est-ce qu'on va réussir, je parle un petit peu de bourse, mais je vais pas en parler beaucoup, est-ce qu'on va réussir à tenir les 22% de hausse des bénéfices qu'on attend cette année sur les entreprises du CAC 40? C'est pas sûr du tout, dans la mesure où il y a un choc inflationniste.
C'est sûr qu'on qu'on va pas les tenir.
Oui, mais pour l'instant, mais c'est ce que prévoient tous les analyses sur son...
Mais je suis pas d'accord avec vous parce que tout le monde dit la même chose. Le réajustement de marché fait qu'on a quand même réajusté les anticipations, même si les analystes n'ont pas réajusté, le marché a réajusté.
Ça a réajusté parce que le marché a perdu 20%. Mais on voit qu'il y a beaucoup de soldes. Dans l'hôtellerie, il y a des hausses entre 5 et 15%. Partout, on sent très bien qu'il y a une inflation salariale qui pointe son nez. Et pour moi, le danger le plus important.
Pas que salariale, il y a
une inflation salariale qui est importante. On a les États-Unis, on a vu même Apple, vous avez vu que ce matin Apple a augmenté des salaires, c'est $22 de l'heure. En France, on a de plus en plus cette inflation salariale. Donc la problématique, c'est est-ce qu'on va pas avoir, et moi je suis moins expert que Valentine ou mon ami Emmanuel, est-ce qu'on va pas avoir une inflation durable?
Mais je pense que
est-ce qu'on va avoir une inflation durable? Moi je pense qu'on est dans une inflation temporaire qui va durer mais qui n'est pas structurelle. Après il y a le problème de la transition écologique, vous avez raison, mais je pense qu'on est dans du 12 à 18 mois. Est-ce que c'est votre avis, Valentine?
On est au moins dans 12 à 18 mois, ça c'est sûr, avec des niveaux d'inflation élevés. Et je pense
de prix élevés mais pas d'inflation élevée.
Non, c'est le contraire.
Non.
Non, elle a
c'est
raison.
Pas du tout le contraire.
Mais bien sûr que si.
L'inflation va baisser, les prix vont rester élevés.
Bah oui, on est d'accord.
C'est bien ce que je dis.
Non, le contraire.
Non, ce qui va être intéressant, c'est que peut-être sur le quatrième trimestre,
vous pouvez me filmer.
Peut-être au quatrième trimestre, on va commencer à voir l'inflation totale qui commence à baisser. Ouais. Mais ce qui est important de voir, c'est l'inflation corps, ça veut dire hors éléments, énergie et alimentaire, qui elle va rester très importante l'année prochaine. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est que les entreprises vont continuer de répercuter sur les prix les hausses de coûts qui ont été extrêmement importantes. Et ce qui est important à comprendre sur la zone euro, surtout sur la zone euro, c'est que c'est une inflation par les coûts. Et ça, c'est un élément important. C'est les coûts qui sont en train d'augmenter et les entreprises qui, pour survivre, sont obligées de répercuter ces hausses de coûts.
Voire amplifier. Enfin, il ne faut pas exagérer non plus. Je
ne
veux pas faire du Leclerc, mais
non.
Franchement, il y a des boîtes qui exagèrent.
Peut-être sur certains segments, certains produits précis. Mais globalement, les entreprises aujourd'hui n'amplifient pas les hausses de coûts. Par contre, aux États-Unis, oui. Aux États-Unis, on est sur un schéma différent.
Il y a des entreprises qui amplifient les hausses de
coûts. Oui, mais c'est localisé. On ne peut pas généraliser ça à l'ensemble de l'économie de la zone euro. Par contre, aux États-Unis, on est sur une inflation qui est à la fois tirée par la demande et par les coûts, avec un marché de l'emploi qui est extrêmement tendu. Aux États-Unis, on a une économie qui est en surchauffe. L'économie de la zone euro n'est pas en surchauffe. Et c'est extrêmement important.
Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que l'inflation va baisser, mais les prix vont rester élevés? Rapidement, vraiment, parce qu'on
Oui, bien, oui. Par définition, dès l'instant où l'inflation, c'est la variation des prix.
Oui, mais elle pourrait continuer à progresser.
Parce que
ma question, Emmanuel.
Non, mais moi, vous connaissez mon point de vue. Mon idée sous-jacente, c'est que.
Je sais pas, vous en changez tout le temps.
Mais jamais j'ai changé. J'étais le premier ici à vous parler d'inflation il y a 2 ans.
De la déflation mondiale.
On va vers un monde dans lequel la base de coûts de production va être structurellement plus élevée, parce que d'ailleurs il y a des coûts qui ont été extrêmement comprimés à l'excès au cours des 30 dernières années.
Donc c'était prévisible.
On pense à l'énergie, on pense à la logistique, etc. Donc ça, c'était prévisible. En revanche, sur la bouffée d'inflation, on voit quoi? C'est que tous les facteurs à l'origine de cette grosse bouffée d'inflation, ils sont en train de se calmer. Vous prenez toutes les matières premières aujourd'hui, elles sont très élevées, mais elles plafonnent.
Ouais, et le gaz a même perdu 25%.
Prenez le pétrole,
moins 7% sur le mois.
Le pétrole, etc. Donc tout ça fait que on va vers effectivement une augmentation des prix qui va ralentir. Donc un rythme d'inflation qui va ralentir.
Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des tendances déflationnistes séculaires. Dans les années 60, ce qui a alimenté les vagues d'inflation,
c'est ça qui est fini.
La fécondité était de 3 en Occident. Elle est aujourd'hui de moins de 1,5. Donc ça a été un moteur puissant de l'inflation des années 60 et 70. Et puis il y a la digitalisation, il y a une nouvelle vague de digitalisation. Et ça, c'est des courants extrêmement puissants déflationnistes.
Louis de Mantalembert, pour une fois, je suis d'accord avec vous. Emmanuel Lechip n'est pas d'accord, mais on n'a pas le temps. Allez, on va passer à la deuxième.
C'est facile.
On va passer à la deuxième. Mais non, parce que vous avez tort, j'ai pas envie. C'est la dernière émission. Je veux pas vous enfoncer. Ouais. Allez, la question du semestre qui vient.
Aucun courage.
On va passer à la question du semestre qui vient. Je vais vous poser une question directe, un peu crue. Éloignez les enfants. Valentine, excusez-moi par avance. Est-ce que vous êtes soft ou hard, Emmanuel? Est-ce qu'on va vers un soft landing ou un hard landing?
Comment vous voulez être hard?
Eric est hard. Tout le monde le sait, c'est sa réputation dans tout Paris.
Comment vous voulez, avec des politiques monétaires aussi accommodantes,
avec des politiques budgétaires aussi laxistes,
je veux dire, arriver à une situation...
On n'est pas laxiste, on remonte les taux.
Non mais attendez, mais c'est quand même très bas, il ne faut pas exagérer. Vous ne pouvez pas, quand vous avez à la fois ceinture et bretelles, vous retrouver avec le pantalon sur les chevilles, vous voyez, c'est pas possible.
Pour rester dans l'esprit du thème.
Vous affectionnez tant. Mmh. Donc non, c'est, franchement, voilà.
Et l'image n'est pas terrible.
Il n'y a aucun pays aujourd'hui qui est dans la configuration d'un pays en récession. Enfin, je veux dire. Donc voilà. Donc oui, il y aura peut-être, on va tangenter la croissance zéro si ça vous fait, si ça vous amuse de vous faire peur avec des croissances zéro plus ou zéro moins. Mais on va pas vers un hard landing. On n'a plus l'économie pour aller vers des hard landing. On a des économies.
Ah bah, vous dites ça, mais c'est aujourd'hui les gens.
La consommation est de moins en moins cyclique parce que vous avez de plus en plus de dépenses contraintes, parce que l'investissement est de plus en plus continu.
Ah, les revenus réels, ils sont vraiment négatifs, là.
Les
revenus réels sont vraiment
négatifs. Valentine, vous êtes hard ou soft ?
Moi, je pense qu'on se dirige surtout sur la zone euro, sur un ralentissement assez prononcé de l'économie, avec un risque de récession.
Hard landing.
Non, mais un ralentissement.
Mais c'est quoi hard et soft ? Précisément, hard.
Soft landing, c'est on tangente la récession, où on a même deux trimestres de récession et on rebondit gentiment. Hard landing, c'est on
la chute brutale
en récession.
C'est
Volcker
82 avec la lutte contre l'inflation.
Hard ou soft, Valentine ? Il faut que le monde le sache.
Je pense qu'on se dirige vers un ralentissement très très prononcé avec un risque de récession très fort. Donc je dirais, je mettrais du 80% du hard.
Récession, mais c'est pas grave ça. Récession, si on fait deux trimestres de récession et qu'on redémarre derrière, en fait, tout va bien. Oui. Parce que la récession va nous permettre de faire baisser la pression, donc
mais
tout
non,
va bien.
Justement.
Allez-y.
Non.
Mais je pense qu'il faut comprendre. Je pense qu'il faut comprendre aujourd'hui les facteurs sous-jacents qui peuvent,
mais on se projette là.
Oui, qui vont être les moteurs l'année prochaine. Pour moi, il y en a deux. C'est ce qui va se passer sur les chaînes de production. Est-ce qu'on va réussir à résorber ou pas les perturbations? Et surtout le secteur de l'énergie. Et ça, c'est le point extrêmement important.
Mais si vous ralentez, vous montez les taux d'intérêt. Vous tapez sur la demande. On le voit déjà. On le voit qu'en montant les taux d'intérêt, le cours des matières premières, alors que l'offre reste la même, a baissé.
D'accord. Si la Chine redémarre, je ne suis pas certaine que les cours des matières premières continuent de baisser. Et en plus, si c'est une relance qui est beaucoup plus domestique, elle risque d'être peut-être plus pénalisante pour un pays comme l'Europe si on a des matières premières qui restent élevées et qu'on ne bénéficie pas de la relance directe de la Chine comme on
l'a eu. Hard landing, vous ?
Je dirais ralentissement extrêmement prononcé. C'est ce que dans notre scénario chez Amundi.
Il applaudit Valentine, je lui laisse la parole quand même.
Là-dessus, oui. Parce qu'il faut bien voir, n'oubliez jamais que ce qui fait les prix des matières premières, c'est pas la demande, c'est l'offre. Regardez dans l'histoire, il y a eu des périodes où on avait des croissances très fortes et des matières premières très peu chères. Il y a eu des périodes où il y avait de la croissance très faible, donc soi-disant des matières premières peu demandées, et pourtant des prix très élevés. Donc c'est les cycles d'investissement de production qui font les prix des matières premières. Donc vous pouvez monter les taux autant que vous voulez, puisque ça a l'air de vous faire plaisir. Ouais. Et ben ça ne changera rien à ce déficit structurel d'offre de matières premières.
Vous montez. Louis de Montalembert, hard ou soft ? Vous, votre réputation est déjà un peu connue, mais allez-y.
Non, mais moi, je crois qu'on n'a pas les éléments, en réalité, pour apporter la réponse.
Néanmoins,
je vais quand même me prononcer.
Mais si je suis d'accord, c'est un peu l'arlésienne, ce genre de question.
Je vais apporter ma réponse.
Non, c'est important, c'est essentiel.
Je vais néanmoins apporter ma réponse, c'est que, en fait, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que les banques centrales augmentent les taux dans une phase de ralentissement de l'économie, ce qui n'est pas ce qu'on voit. Dans le cycle habituel, il y a surchauffe de la demande, on augmente les taux pour calmer la demande. Là, on est dans un choc d'offre, d'accord ? Et donc, l'augmentation des taux n'a aucun impact sur l'offre. Et en fait, l'augmentation des taux, elle est là, elle est très politique, parce que l'inflation est devenue très impopulaire. Et pour réajuster, en fait, une demande qui est déjà faiblotte...
La demande n'est pas faiblotte, on est en plein emploi.
Pour réajuster une demande par rapport à une offre qui est contrainte. Et donc, par conséquent, je pense que c'est récessif. Donc, si on continue sur le chemin sur lequel on est, je pense effectivement qu'on va s'acheminer vers une
récession. Eric Ewing, vous n'avez aucun avis là-dessus ?
Si, j'ai un avis. Ah, okay. Voilà, la méchanceté personnifiée est là. Bah, déjà, aux États-Unis, on est quasiment en récession. On a fait moins 6 sur le premier trimestre, on va faire moins 1 sur le deuxième trimestre. Moi, je ne suis pas ultra négatif quand même. Je pense qu'on aura un atterrissage en douceur. Par contre, ce qu'on voit quand même très nettement sur les marchés de taux, c'est que les marchés de taux jouent quand même un très fort ralentissement économique, voire une récession. Voilà. Je vous rappelle que je vais juste parler du 10 ans américain. Il est passé de 3,04 à 3,50. Entre le 2 et le 16 juin, et là on est passé de 3,50 à 2,97 entre le 16 juin et le 1er juillet. Donc,
parce que la hausse des taux d'intérêt provoque la baisse des taux d'intérêt.
Parce que la hausse des taux d'intérêt peut provoquer une récession et donc les taux longs baissent. Et c'est la même chose sur le pétrole.
Contrairement à ce que dit Emmanuel Le Chip,
c'est pour ça que sur le pétrole,
qui est très forte, contrairement à ce que dit Louis de Montalembert, puisqu'on est en période de.
Ah ben, la demande est très forte aux États-Unis, c'est évident. Et c'est pour ça que le pétrole aussi a perdu entre 7 et 10% sur le mois de juin. C'est-à-dire qu'on sent très bien.
L'intérêt de la hausse des taux
on sent très bien que les marchés jouent la récession.
Non, mais je suis désolé, vous avez un problème d'offre. Ouais. Si vous considérez que la panacée de la politique...
On a un problème de demande aussi. Mais si, on a une croissance qui est trop forte.
Il n'y a que des problèmes d'offre.
Aux États-Unis,
mais pas en Europe. La solution, la sortie par le haut, c'est quoi ? C'est de mener des politiques de l'offre qui permettront que la demande soit satisfaite par l'offre. Et vous avez, à niveau d'inflation identique, un potentiel de croissance plus élevé. Vous pouvez considérer que la bonne solution, vu que l'offre est contrainte, c'est de taper sur la tête de la demande pour la ramener, etc. Et ça, c'est débile. Voilà.
Moi, je pense qu'il faut provoquer une récession. C'est comme un coma artificiel.
Bien sûr.
Mais allez, on passe.
C'est un boucher.
Valentine. Non, mais il faut vraiment faire une distinction très forte entre les États-Unis et la zone euro. Aux États-Unis, il y a une demande qui est très forte. Et c'est absolument
qu'il faut briser.
Qu'il faut ralentir
comme
pour réaligner avec
la bonne période.
Mais sur la zone euro, on n'a pas cette demande qui est aussi forte. On n'a pas une économie en zone euro qui est en surchauffe. Et il n'y a pas d'autre moyen pour contenir une inflation.
Non, mais elle a raison, Marc, là.
Bah, que de réduire le niveau de l'activité.
Sauf que donc, tout vient des États-Unis aujourd'hui.
Non, mais il y a un truc qui est très clair. Je pense qu'il n'y a pas un moyen de réduire une inflation qui est tirée par les coûts. Le seul moyen, c'est de réduire le niveau d'activité. Et si cette inflation, elle résulte des prix de l'énergie élevés, oui, on se dirige sur un hard landing si on continue d'avoir une dérive des prix de l'énergie sur l'Europe.
Alors moi, je crois un soft landing parce que je crois que le fait de casser la demande va provoquer quand même
une mini-récession,
une réajustement des prix, et on commence à le voir sur les matières du pétrole, et donc on commence sur le pétrole et les autres matières premières, et donc on commence à le voir sur les taux d'intérêt. Le chiffre du semestre. C'est la nouvelle rubrique, on ne fait que des nouvelles rubriques. On teste des trucs pour la rentrée prochaine. 2%, c'est le taux d'emprunt d'État de la France à 10 ans. On était à peine en dessous de zéro en début d'année, au-dessus de zéro, et on était négatif il y a un an. Ça vous inspire quoi, Emmanuel ? 2% pour la France ?
Non, mais c'est pour ça que moi, je pense que ce qui est très intéressant, plus que de s'intéresser à la bouffée d'inflation, non, mais c'est vous allez voir que j'y réponds. Et c'est là où je suis pas forcément d'accord avec Louis. C'est l'idée que, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est en train de changer de monde. On est en train de changer de période. La question, c'est pas est-ce qu'on aura 6 ou 8% d'inflation dans 3 mois. Moi, c'est là où je suis vraiment divergent avec vous tous, c'est que je pense qu'on est sorti de 40 ans de déflation pour tout un tas de raisons. Et notamment tout ce qui a été évoqué sur la transition écologique, les relocalisations, etc., etc. Donc, c'est ça qui est intéressant et qu'on rentre vraiment dans ce monde où on va retrouver que l'argent, ça a que le temps et le risque.
Retour à la normale. Est-ce qu'on peut dire que c'est un retour à la normale?
Oui, il y a une forme de retour à la normale, mais qui est quasiment fait sans les banques centrales. C'est, regardez l'ajustement sur les marchés, regardez la hausse des taux longs. Ah, ça se fait presque sans les banques centrales.
On peut s'arrêter une seconde. Non, vous pouvez pas dire que le réajustement des taux à la hausse sur la dette des États européens se fait sans les banques centrales. Et il se fait parce que les banques centrales ont arrêté d'acheter des emprunts d'État.
Oui, mais pas ce que je veux dire. Alors, je rectifie, pas en jouant sur les taux d'intérêt court terme.
2%, ça vous inspire quoi sur le 10 ans français? Est-ce que c'est plus... Moi, je trouve que c'est plus normal que les moins 0,17% qu'on a eu il y a un an. Et je trouve que c'est plutôt sain. Qu'est-ce que vous en pensez?
On remet un peu les pendules à l'heure et ça sonne un peu le glas des politiques monétaires ultra-expansionnistes, des politiques budgétaires ultra-accommodantes. Maintenant, la dette a un coût. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va être dans un environnement où il va falloir beaucoup investir, mais on ne va pas pouvoir augmenter les niveaux de dette. Donc, il va falloir jouer sur l'efficacité budgétaire. Donc ça, c'est le
problème. Donc il va falloir moins distribuer de l'argent gratuit parce qu'il n'y a pas d'argent magique.
L'argent magique, comme ont vanté certains hommes politiques, effacer la dette, etc. Non, ce n'est pas possible. L'argent a un coût. Donc si on veut, il va falloir dépenser mieux, je pense.
2% pour l'État, ça veut dire pour les entreprises beaucoup plus. Moi, j'ai vécu en direct cette semaine des entreprises avec lesquelles je suis en contact qui ont vu leur taux d'emprunt exploser. Du simple au double, hein. Ça vous inspire quoi ?
Alors, le coût de l'argent, c'est le fondement du capitalisme. Quand on n'a pas de coût de l'argent, ça devient totalement déconnant parce qu'on a une mauvaise allocation du capital et c'est ce à quoi on a assisté ces dernières années, des distributions absolument n'importe comment. Donc, le coût de l'argent, c'est absolument nécessaire et 2%, on pourrait dire que le compte n'y est pas encore parce que si on regarde les projections d'inflation à long terme, on est encore en dessous du taux neutre. Donc en réalité, où on est peut-être au taux neutre, mais ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas encore véritablement un coût de l'argent. Et effectivement, il y avait une bulle sur les emprunts obligataires qui s'est dégonflée, d'État, qui s'est bien explosé. Rappelez-vous qu'il y a deux ans, je vous disais, il y a une bulle sur les emprunts d'État, en disant il y a des bulles partout, il y a des bulles partout. Et donc,
vous avez mimé ma façon de parler, là, il y a des bulles partout, je faisais ça.
Et donc, c'est sain. Parce que ça va conduire effectivement à un réalignement des politiques vers quelque chose de plus raisonnable.
2%, ça vous inspire ?
Moi, j'ai une vision que microéconomique parce que je suis un peu bourrin dans mes raisonnements. Franchement, pour les entreprises du CAC 40, ça change pas parce que l'endettement est au plus bas depuis 2008. Je crois que l'endettement net des boîtes du CAC 40, c'est 160 milliards, c'était 280 milliards en 2008. Maintenant, le problème, c'est pour les boîtes un peu plus petites, quoi. Moi, je m'occupe, par exemple, dans ma ville où je suis élu, des startups. Et par exemple, le financement de startups devient de plus en plus compliqué. Il y a plus de fonds, il y a plus de business angels, il y a toute une partie de l'économie qui va souffrir donc de cette hausse des taux.
Et on les a poussés au crime puisqu'on leur a expliqué.
On leur a poussé au crime, on leur a expliqué que les valorisations n'étaient pas importantes, etc.
Mais que l'important c'était la levée de l'argent, que l'important c'était la croissance.
C'est
momentané,
comme ça, c'est pas la rentabilité. C'est un ajustement. En réalité, aujourd'hui, les banques sont très frileuses, mettent des marges extrêmement importantes parce qu'elles ne savent pas où les taux vont s'arrêter. Mais on peut pas dire que ce qui se passe à l'heure actuelle est le bon.
Ça va être jusqu'à la fin de l'année et 6 mois pour une entreprise qui crache, enfin qui brûle de l'argent tous les mois, c'est beaucoup. On se retrouve en deuxième partie d'émission.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et après une première partie de l'émission, on se retrouve pour une émission exceptionnelle puisque c'est la dernière de la saison, qu'on fait le bilan du semestre passé et qu'on vous donne toutes nos prévisions pour le semestre qui vient. On est toujours avec Emmanuel Le Chip, dont la sympathie n'a d'égal que sa mauvaise foi, avec Eric Lewin, dont le bronzage varie en fonction
des
cours de bourse, et il est très très pâle, et Louis de Montalembert, donc, dont on sait bien que c'est un ancien proche de Marie-Antoinette. Et vous vouliez faire un happening.
Je vous ai apporté un petit cadeau. Vous me folklorisez, pour reprendre un terme cher.
Jamais. Eric,
sur Marie-Antoinette. Et en fait, je pense que c'est un fantasme personnel que vous projetez sur moi. Et donc, je vous ai apporté une reproduction d'un pot de Marie-Antoinette, le pot de la reine, d'accord, qui a été fait par la manufacture normande depuis 1736, qui est la manufacture qui faisait ses pots à l'époque de Marie-Antoinette. Donc, vous pouvez presque considérer que ce pot en grès,
très ému, hein.
Ce pot en grès, vous pouvez mettre dans les allées de votre parc. Résiste au froid. Et vous pouvez presque penser que Marie-Antoinette l'a touché. Et il est à vous.
Écoutez, vous savez quoi ?
C'est un cadeau ?
C'est un cadeau pour Marc.
Vous savez quoi ? J'ai la larme à l'œil. Et on se retrouve
avec. Est-ce que ça rentre dans le jet privé ?
Et on se retrouve avec Valentine Hénouze qui se demande quand même si elle va revenir, si elle va revenir la saison prochaine. Parce qu'une émission d'économie, on se retrouve à parler du pot de Marie-Antoinette. C'est quand même un peu inquiétant. Allez, on va parler des marchés. Bon. Ah, je rigole, mais c'est pas drôle. CAC 40, moins 17. S&P, moins 20,3. Bon, vous avez entendu déjà 50 fois les gens répéter la même chose. On n'a pas vu ça depuis les années 60, depuis 1970. Le Nasdaq, moins 29%. On n'a jamais vu ça de l'histoire du Nasdaq. L'Eurostock 50, on est à moins 19,8. Alors, en parallèle, le seul truc qui a monté, c'est le Brent, 47,4%. No comment, surtout de Louis de Montalembert, qui a été quand même, nous a poussé à acheter des bitcoins et autres. Ça perd moins 60%.
C'est faux, c'est
allez-y, vous avez
faux.
Le droit de vous répondre.
Non, c'est tellement faux.
Parce que je vous accuse.
J'ai mis un doigt dedans en 2017 pour comprendre ce que c'était.
Il est broyé d'ailleurs.
Et j'ai gagné amplement, je n'ai plus jamais touché à ces trucs-là.
Entre 1,5 et 2% de hausse sur les taux à 10 ans, on en a parlé tout à l'heure. J'ai juste envie de dire waouh. Et puis, où est-ce qu'on va maintenant ? Eric Lewin, on va où sur les indices ? Parce que bon, ok, d'accord, ça y est, on sait, ça a été un semestre dégueulasse. On se projette vers l'avant, qu'est-ce qu'on fait ?
Si on va dans l'histoire, les trois fois le S&P a perdu plus de 20% dans l'histoire, c'est-à-dire 1932, 1940, 1962, il a fait...
Vous avez bossé ?
Bien, à mort ! Il a fait un très bon deuxième semestre. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai le sentiment qu'on a quand même peut-être commencé à pricer le pire sur les marchés. Si tous les quatre, vous pensez que l'inflation va être temporaire ou va se remettre à baisser, alors il faut acheter des actions. Quand on voit, par exemple, que des très belles boîtes de la cote, comme du Hermès, comme du Dassault System, ont perdu entre 30 et 35%, vous pouvez vous dire que, sauf si les résultats des entreprises sont cauchemardesques, il n'y a pas de raison...
Attendez, vous dites une chose, tout à l'heure, vous nous avez dit les prévisions...
Mais c'est intégré. Mais attendez, la problématique, c'est que c'est intégré. Vous avez des marchés qui baissent de 20% depuis le début de l'année, vous pouvez vous demander si c'est intégré. Le CAC 40, en ce moment, ça vaut 11 fois les bénéfices. Alors vous allez me dire, oui, il peut y avoir des dégradations de résultats. Moi, j'ai le sentiment qu'on n'est pas loin du bout. C'est-à-dire que je pense qu'au moindre bon indicateur... aux États-Unis sur l'inflation, aux moindres décisions de banquiers centraux qui nous disent oui, mais finalement on va augmenter les taux, mais pas si fortement que ça, on n'aura peut-être pas 3-3,5 sur les Fed Funds en fin d'année aux États-Unis, les marchés peuvent rebondir. C'est-à-dire que je pense qu'on peut avoir un marché porte de saloon, mais je suis pas sûr qu'on n'ait pas vu le plus bas sur les marchés.
Je peux vous faire un coup bas ?
Ouais.
Qu'est-ce que vous prévoyez pour le CAC à la fin de l'année? Ça, vous en voudrez pas.
Non, mais je déteste ces questions. Ça, c'est des questions.
Mais oui, mais c'est
non, mais je réponds pas à ce genre de questions. Okay. C'est complètement grotesque. Je pense qu'on sera plus haut en fin d'année qu'on est maintenant. Mais si je vous dis.
Déjà? Bah, oui. C'est bon.
Non, mais si je vous dis 6824, je passe pour être un mec hyper intelligent alors que je suis un débile profond. Je pense qu'on sera plus haut. Sauf si vraiment l'inflation se met à s'envoler, ce que je ne crois pas.
J'avoue.
Louis de Montalembert, les marchés. Me dites pas, oui, moi, je regarde pas les indices, je regarde.
Non. Je regarde, en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est un peu en attendre Godot les marchés à l'heure actuelle. C'est-à-dire que on attend un moment où le brouillard se lève, et le brouillard se lève justement sur cette discussion autour de la récession. Les marchés adorent quand on rentre en récession.
Oui, bien sûr.
Ils anticipent. Et donc aujourd'hui, ils sont encore dans ce discours qu'on a eu dans la première partie de « va-t-il y avoir une récession ? Quand est-ce qu'elle vient ?» Certains disent qu'elle vient en 2023. Je crois que Goldman Sachs met 30% de probabilité. Patrick Artus dit 2024 parce qu'il y a encore beaucoup de demandes aux États-Unis. Et donc, par conséquent, si la récession est en 2024, on peut se dire que les marchés vont être en taux ondulé pendant un moment.
Vous avez vu le crack des subprimes.
Néanmoins, moi, quand je regarde les marchés, je suis d'accord avec Eric Lewin aujourd'hui. On trouve des valeurs extrêmement intéressantes. Mais là, je me mets dans la posture de l'investisseur, je mets la psychologie collective de côté. On trouve aujourd'hui des entreprises de très grande qualité qui sont à des multiples extrêmement raisonnables. Pour autant qu'on puisse mesurer que c'est multiple.
Non,
mais les grandes. En fait, c'est toutes les valeurs dites de pricing power, le luxe par exemple, un bout de la technologie, etc. Donc là, on trouve des valeurs extrêmement intéressantes. Mais est-ce que c'est le point bas? Je veux dire, le point bas des marchés, c'est un peu comme le point G. On sait que ça existe, mais on ne sait pas le situer. Donc, pour moi,
parlez pour vous.
Pour moi, il y a.
Parlez pour vous. On arrête parce que là. Bon, Valentine, vous sortez. On arrête parce que là, parlez pour vous. Je veux dire, il y a Eric Lewin, c'est
très bien. J'ai promis à mon équipe que je.
Qu'est-ce que j'ai fait, mon gars?
Pour moi, il y a énormément de valeurs. Ça peut être un point bas, mais on ne sait pas si c'est le point bas. Et à tous égards, il y a un point d'investissement. Voilà.
Marc, elle a l'impression d'être prise dans un traquenard, non? Pour elle, ça doit être un cauchemar.
Regardez-vous, Eric. Vous voulez une valeur, par exemple, Saint-Gobain, ça vaut 6 fois les bénéfices. Saint-Gobain va profiter de la rénovation du neuf aux États-Unis et de la rénovation, tout ce qui est de la transition énergétique en Europe. Donc, la valo actuellement de Saint-Gobain price une très forte récession. On commence à rentrer sur des cours d'achat.
ST Microelectronics, ça vaut 10 fois.
Pareil. Donc, il y a quand même des petits dossiers sur lesquels
LVMH, vous vaut 14
pas,
fois.
Si vous achetez pas maintenant, vous achetez jamais.
Alors.
Valentine, je me retourne vers vous, non pas par rapport à ce qu'a dit Louis de Montalembert, mais par rapport au fait qu'en termes de pricing et de réajustement, quand on fait des valorisations avec des modèles sur une base de taux à zéro, quand on passe à 2 ou 2,5, c'est plus la même chose.
Exactement, oui, parce qu'on réajuste les flux futurs en fonction des taux d'intérêt. Donc forcément, on n'est plus sur les mêmes niveaux de valorisation. Mais néanmoins, là, je partage ce point de vue. Aujourd'hui, les niveaux de valorisation sont attractifs.
Après... J'ai eu peur.
Je vais essayer d'aller juste.
Le CSA va nous tomber dessus avec tout ce qu'on dit là.
Non. Les niveaux de valorisation aujourd'hui sont attractifs. Après, la question est de savoir est-ce que c'est un point d'entrée ou pas. Et donc, je partage ce point de vue sur l'inflation. Quand on aura une visibilité un peu plus forte sur la trajectoire de l'inflation, à savoir qu'on commencera à être confortable sur le fait que cette inflation va décélérer, là, oui, on pourra rentrer sur les actifs risqués, que ce soit les actions ou le crédit. Et là, je ferai une différence assez forte entre encore les États-Unis et la zone euro. Qu'est-ce qui pourrait faire que ce point d'inflation soit encore repoussé? Eh bien, c'est ce qui va se passer sur le marché de l'énergie. Et notamment sur le marché du gaz.
C'est quand même
la grosse
incertitude sur laquelle on a aucune.
C'est une grosse incertitude, c'est une variable exogène sur laquelle on n'a pas la main en zone euro qu'on fait. Enfin, c'est une variable exogène. Quoi.
D'un point de vue macro, la baisse des marchés, c'est aussi un facteur de ralentissement de la croissance, non? Avec le wealth effect, l'effet richesse.
Alors, si on considère effectivement qu'une partie de la consommation est financée par. Les effets
en Europe,
richesse, oui, mais c'est vrai que ça n'est valable qu'aux
États-Unis.
Aux États-Unis, oui, en Europe, pas du tout.
Le raisonnement qu'on pourrait avoir, par exemple, c'est de se dire, regardez ce fameux phénomène de la grande démission. Quand vous regardez qui est concerné comme population aux États-Unis, vous avez une grosse population de personnes plutôt âgées qui décident finalement de prendre sa retraite plutôt que prévu. Fortune faite en grande partie avec les 30 années de hausse des marchés. L'idée, si vous êtes un peu tordue, c'est de dire, bah attendez, si on provoque un reverse wealth effect, c'est-à-dire un effet d'appauvrissement, est-ce que finalement ces gens-là vont pas revenir sur le marché du travail et éventuellement limiter les tensions sur le marché du travail? Pourquoi pas? Après, il y a un autre effet, c'est via l'immobilier, où là, et là, pour le coup, en Europe...
Là, c'est la grosse question aux États-Unis. Hein.
Mais en Europe, aujourd'hui, il y a, quand vous regardez, il y a énormément de villes dans lesquelles vous avez structurellement un déficit d'offres et où vous dites, même si il y a un peu moins de demandes, les prix baisseront pas tant que ça. Donc l'effet de richesse...
Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis.
L'effet de richesse, est-ce qu'il sera si fort que ça en Europe? Moi, je crois pas tant que ça.
Mais même aux États-Unis, sur le marché de l'immobilier, on est dans un contexte qui est totalement différent que depuis 2008.
Oui, mais on est quand même dans une bulle.
Dans une bulle, mais déjà les bilans des ménages.
C'est pas la bulle de 2008.
Non, on n'est pas du tout dans le même contexte. Les bilans des ménages sont plus solides. Les prêts n'ont été octroyés qu'à des ménages avec des bons ratings. Les taux de défaut sur les mortgages sont extrêmement bas. Donc on n'est absolument pas dans le même contexte.
Mais on est dans une bulle quand même. C'est pas 2008. On est surévalué 30%.
Oui, mais je ne vois pas un effondrement des prix.
Je suis d'accord avec vous.
Les stocks sur ceux des plus bas.
Non. Je suis d'accord avec vous. La question d'argent du semestre, c'est parti. Et là, je veux pas de réponse. Les actions. Je vais vous poser une question et je vais commencer par Valentine, puisqu'elle fait de la stratégie. Où faut-il mettre son argent pour le deuxième semestre de 2022, Valentine?
Attends, la réponse.
Emmanuel Le Chip, qui a touché un énorme chèque pour pouvoir rempiler l'année prochaine dans cette émission. Où est-ce qu'il met son argent?
Alors, vous allez être un peu déçu de la réponse, parce que pour l'instant, moi, je resterai beaucoup plus en position d'attente en attendant des points de rentrée pour me repositionner sur les actifs risqués. Mais là, pour l'instant, je resterai prudent.
C'est quoi l'attente? C'est vraiment laisser en cash ou aller sur le livret A? Enfin, je veux dire, non, mais c'est pas une blague, hein, mais ou le fonds en euros, enfin, je veux dire, c'est vraiment à ce point-là. C'est le repli, là, c'est le bunker.
Non, quoi. Par exemple, nous, aujourd'hui, ce qu'on conseille, c'est aussi de se repositionner un peu sur de la dette d'État, hein, parce qu'on est quand même sur un scénario où nous, on voit quand même un fort ralentissement. Donc nous, sur la dette
d'État. Vous dites à 10 ans, franchement, 2% à 10 ans, l'État français,
c'est pas si mal. C'est pas si mal. Bon, après, faut pas. Oui, c'est pas si mal, mais donc en position d'attente, mais je pense qu'il y aura d'excellents points de rentrée sur les actifs risqués au cours des prochains mois.
Je me tourne vers le spécialiste du point G.
Justement, compte tenu de ce que j'ai dit sur le marché le fait que ça me rende malade de placer mon argent à 2% et ce qu'on a dit avec Eric, c'est qu'on trouve aujourd'hui des valeurs qui sont extrêmement intéressantes et que je suis un investisseur dans l'âme, c'est-à-dire que j'estime qu'on n'investit pas en bourse l'argent dont on a besoin, même dans un délai de 5 ans. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des points d'entrée sur des valeurs extrêmement intéressantes. Est-ce qu'elles seront à moins 20% dans 6 mois? Non. Ce qui est important, c'est que quand vous retournez au bout de 5 ans...
C'est rien, parce que vous avez une fortune personnelle et familiale.
C'est pas ça.
De l'époque royale, mais on n'a pas tous hérité de Louis XVI.
Mais non, on a beaucoup perdu en 1789.
Mais c'est vrai.
On n'a pas coupé toutes les têtes. On n'investit que l'argent dont on n'a pas besoin et par conséquent, qu'on peut garder sur un temps long. Aujourd'hui, on a des points d'entrée sur des valeurs que moi, je ne rêvais pas de pouvoir acheter il y a quelques années qu'aujourd'hui...
Votre rêve se réalise en ce moment?
Rêve se réalise et par conséquent, dans cette perspective de long terme, oui, peut-être qu'il y a un point bas, qu'il y aura des opportunités mieux, mais je suis incapable de le dire. En tout cas, ce que je sais juger, c'est la chose et son prix. Et aujourd'hui, la chose est de qualité et son prix est abordable.
Est-ce que vous connaissez aujourd'hui, vous pouvez dire ce qu'on va faire de son argent et
small et mid caps, mon général.
Ah non.
Mais d'accord, attendez.
Ah mais chacun, je vais prendre un spécialiste. Est-ce que je peux parler valeurs pétrolières, il va me dire le pétrole.
Pourquoi quand Valentine parle, vous dites, vous êtes les yeux écarquillés
parce
et
quand que, moi
je parle, il m'interrompt toutes les deux
allez-y.
Secondes.
Parce qu'il vous folklorise.
Small et mid caps, pourquoi? C'est un marché qui a perdu 20% depuis les
Il est jaloux, hein.
Mais grave. On avait une amitié avant exceptionnelle, maintenant c'est à peine une relation. Pourquoi small et mid moins 20% depuis le début de l'année. Dans les fonds small, il y avait 20 milliards en début d'année, il n'y a plus que 15 milliards. Les valons ont vraiment baissé. Il y a un écart entre le private equity encore et les small entre 25 et 30%. Et moi, je persiste et signe, comme au premier semestre, comme pour Generix, comme pour Casc, comme pour OL Group, il va y avoir des prises de participation, des opérations financières de la part de fonds de private equity. Donc je dis à nos amis auditeurs, à mes amis lecteurs, restez investis sur les small et mid. C'est un compartiment où les boîtes vont quand même bien et elles ont été déficées. Pas parce que les résultats étaient mauvais, mais parce qu'il n'y a plus d'acheteurs. Donc les acheteurs finaux vont être qui? Les fonds de private equity. Et sur les grandes actions, je pense que sur le CAC 40, du Schneider, du Saint-Gobain, je suis d'accord avec Louis, du LVMH, il faut y aller. Même si on perd encore 5 ou 10%, ça reste quand même des dossiers de super bonne qualité.
Emmanuel, quel est le mot du semestre pour vous? Vous avez oublié, non?
Non, mais à part
Non, bah non.
Si, avez... non, mais toujours le quoi qu'il en coûte. Moi, c'est
allez.
Ah oui, non, c'est-à-dire qu'il y a un moment où effectivement, puis on voit que ça s'accélère, quoi. C'est-à-dire, alors effectivement, dans la théorie, il y a rien qui vous indique. Moi, ça m'a follement amusé cette semaine toutes les réflexions autour du thème. On atteint des points critiques, etc. Mais d'où on atteint des points critiques, enfin, je veux dire, qu'est-ce qui permet de dire qu'on atteint des
points critiques? On les a dépassés depuis longtemps, non?
Mais c'est quoi les points critiques? Honnêtement, regardez la littérature. Vous avez des pays qui ont énormément de dettes publiques qui vont très bien. Vous en avez qui en ont très peu qui vont très mal. C'est très compliqué de savoir. Donc,
c'est important ce que vous dites quand même. Excusez-moi, un pays qui est très endetté, c'est pas une bonne, c'est pas ça.
Si. Bah, je sais pas. Est-ce que vous trouvez que le Japon va si mal que ça?
Non, je sais pas, je vous pose la question, c'est pas grave.
Est-ce que vous trouvez que l'Argentine va si bien que ça, alors qu'elle a pas énormément de dettes publiques? Donc voilà. Donc moi, ce qui me fascine, non, mais là où je suis très inquiet pour boucler par rapport à ce qu'on a dit, encore une fois, moi, c'est pas la dette Covid qui m'inquiète, parce que bon, elle est spécifique. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la combinaison de ce qu'a évoqué Valentine tout à l'heure sur tous les besoins qui s'allongent les uns après les autres. C'est-à-dire, quand vous vous dites que pour l'éducation, il va falloir dépenser beaucoup plus, pour la santé, pour la transition écologique, pour la sécurité, etc. Et qu'il y a le verrou du raisonnable qui a sauté avec le quoi qu'il en coûte. Et qu'on est en plus dans un pays où, manifestement, la seule réponse qu'on a maintenant, puisque... alors, j'entendais l'appel à la rationalisation de la dépense publique. Moi, je n'y crois plus.
C'est-à-dire que je pense que maintenant, on nous a sorti les boucliers magiques.
Non, on a eu la France est un pays ingouvernable.
On a eu les aides.
La France n'est pas un pays ingouvernable parce que la majorité à l'Assemblée est compliquée ou parce que les Français sont ronchons, etc. C'est parce que l'État n'est plus capable de gouverner et que plus personne ne tient la machine. Et qu'on n'est plus capable d'avoir la moindre action de politique économique. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète le plus.
Il a fallu attendre la fin de la saison pour qu'on ait un point d'accord.
Voilà.
C'est quand même un événement.
C'est un happy ending.
Voilà.
Je voulais parler du mea culpa des banques centrales, mais c'est surtout le contre-pied. On s'est fait tous prendre à contre-pied. Franchement, début d'année, qui était négatif sur les marchés? Peu de monde. Qui pensait que les taux
allaient...
Marc Fiorentino, un peu. Mais Marc, de toute façon, tous les ans, il est baissier. Une année, il a raison. Non, je pense qu'on s'est tous fait prendre à contre-pied. Personne, en début d'année, pensait que le CAC 40 baisserait de 20% sur le premier semestre. Non, Marc, c'est pas vrai. Une horloge cassée a toujours raison de pas parler.
Que j'ai écrite
en début d'année
et surtout sur l'inflation.
Non mais Marc, bon, ça fait 25 ans que vous tenez, en début d'année vous êtes toujours négatif, donc
c'est pas
un
vrai.
Jour
pas en 2020 ni en 2021
et si, mais
allez-y
si.
Pas en 2020,
donc tout le monde a été pris à contre-pied.
J'ai des textes, allez-y,
tout le monde a été pris à contre-pied sur ce... mais si, à part Marc Fiorentino, personne n'aurait pu penser une telle déflagration sur les marchés quand même.
D'accord, et donc,
mais c'est tout,
c'est votre mot,
le contre-pied.
Le mot du semestre.
Moi, c'est technologie. Finalement, les valeurs technologiques qui ont été amenées au pinacle dans la décennie précédente ont été plongées dans les tréfonds des méandres de l'Hadès.
Au pinacle par des gens comme vous.
Non. Il faut quand même admettre que la technologie est ce qui change la vie. Elle est au centre, notamment, de ce qui va permettre aux entreprises de passer à une nouvelle phase de digitalisation. Nous, on suit les entreprises du cloud. Depuis le 16 novembre, elles ont baissé à peu près de 55%. Mais comme les croissances sont toujours stratosphériques, on a un D-rating de près de 75%.
J'ai rien compris.
Il y a une perte de valeur, c'est-à-dire ton multiple, votre multiple par rapport à novembre 2016 a baissé de 75%.
C'est le bordel. D'accord. Après avoir parlé de point G, vous pouvez le tutoyer. On n'est plus à ça.
En gros, la valorisation a baissé et les perspectives d'activité sont toujours stratosphériques et sont
bien meilleures. Donc la technologie, c'est quand même ce qui a marqué dans cette espèce de renversement qu'on a connu en début d'année. Et donc, pour moi, c'est ce qui est le plus marquant, une des événements les plus marquants du premier semestre.
Valentine.
Moi, je serais très vigilante sur l'évolution du secteur de l'énergie en zone euro.
Donc, votre mot du semestre, c'est énergie?
L'énergie, oui. Okay. L'énergie. Et je rappellerai que, d'un point de vue sur l'énergie, les États-Unis sont autosuffisants. Et nous, on reste extrêmement dépendants encore au pétrole et au gaz russe. Et notre inflation, aujourd'hui, est tirée par les prix de l'énergie. Il n'y a pas de moyen de contenir une inflation tirée par les coûts sans réduire le niveau d'activité. Et ma crainte pour l'année prochaine, c'est... plus qu'une question de prix, qu'on commence à relancer des programmes de réduction d'énergie.
Ou de retour du charbon, ce qu'on a vu quand même. C'est spectaculaire.
Ce qui serait en parallèle du retour des charbons.
C'est quand même un des secteurs, il faut le dire quand même, j'ai honte, quoi. C'est un des secteurs qui a mieux performé depuis le début de l'année.
Exactement. Mais si on commence à douter de la capacité d'approvisionnement en gaz russe, on va relancer des programmes de réduction de consommation.
Sachant que le coup d'après qu'il faut bien avoir en tête, oui, c'est que tous les scénarios de transition écologique qu'on nous fait aujourd'hui avec la voiture électrique, etc., sont aujourd'hui intenables. Compte tenu de nos scénarios, par ailleurs, d'approvisionnement énergétique.
Absolument.
Et notamment de timidité sur la relance du nucléaire. Et là, on va vers des problèmes qui sont autrement plus sérieux que de savoir à qui on va acheter notre gaz ou notre pétrole.
Deuxième point sur lequel je suis d'accord avec vous. C'est quand même énorme.
C'est magique.
Allez, on passe au top 3 depuis le début de l'année. Bon, je rigole, mais bon, c'est horrible. C'est horrible. Donc, les perfs sont juste totalement dramatiques. Les meilleurs font moins 9%. Moins 9%, Sébastien Corcia, qui est le meilleur des là sur le début de l'année. Pierre Chang, moins 9,3%. Jérôme Fauvel, moins 12,3%. C'est tout simplement un désastre. Louis, on reprend votre portefeuille. Vous me dites ce que je fais des valeurs que vous avez en portefeuille et vous me dites ce que j'achète. On a du Voyageur du Monde.
On vend. C'est à monter depuis le début de l'année.
C'est
très
vrai,
bien
ça a fait 16,1%.
Ouais.
On a du Do & Co.
On vend.
D'accord, ça a monté aussi depuis le début de l'année. Vous vendez ce qui a monté.
Ouais.
On a du Upstart.
On garde.
On a du CrowdStrike.
On garde.
On a du DocuSign.
On vend. Très décevant de publication.
Ah oui ?
Ouais, là pour le coup.
On a du Datadog.
On garde.
On a du Snowflake.
On garde.
On a du Bill.com.
On garde.
Qu'est-ce qu'on achète ?
On ajoute. Bah, on va jouer le rebond des entreprises du cloud avec Cloudflare. Qui est une société de cybersécurité qui crée en fait des réseaux sécurisés pour les entreprises, pour avoir accès partout dans le monde à un réseau parfaitement sécurisé. On sait que la cybersécurité aujourd'hui c'est un sujet majeur. C'est une entreprise qui croît à 50% par an sur les 5 dernières années de manière à peu près étale et qui continue à avoir des perspectives très importantes. Elle faisait 200 millions de dollars de chiffre d'affaires il y a 4 ans. Elle va faire 1 milliard de chiffre d'affaires cette année.
Rentable,
elle est à l'équilibre. Mais elle a un potentiel de rentabilité qui est de l'ordre de 30%. Aujourd'hui elle court après sa croissance. Et donc,
et ça par exemple c'est une valeur qui a perdu combien dans ce grand
80%.
80%.
Depuis le 16 novembre, 80%. Ouais.
Ah ben donc là, et ça, c'est pas une boîte, donc il n'y a pas de cash burn, puisqu'elle finance sa croissance. Enfin,
elle a 4 milliards de cash sur son bilan, donc, et elle vient de finir son programme d'investissement de cash burn.
Bon, c'est intéressant. Eric Lewin, on reprend toutes les valeurs, vous me dites ce qu'on fait. On a du
Atos. Là, je fais moins le malin quand même. Hein.
On a du Atos. On a du Reward.
On garde.
On a du Hélice. On a du Fnac Darty. On a du Genoway. On a du Clara Nova.
On garde tout.
Bah attends, je dis quand même ce que vous avez. N'ayez pas honte.
Et Atos, on garde aussi.
Et qu'est-ce que je fasse à 13 euros, mon cher Emmanuel? Attends, c'est le gadin. Et en plus, il me remet dans la gueule ce problème d'Atos.
On a du L'Oréal. On a du Blockchain Group.
On garde.
On a du Alten.
On garde.
Et vous avez une valeur en hausse, c'est toi que ça est en hausse de 1,1%.
C'est catastrophique.
Qu'est-ce qu'on achète?
On achète du Dassault Systèmes, qui est un titre quand même qui est passé de 56 euros à 34 euros, éditeur de logiciels, très bien positionné sur l'usine du digital, ce qu'on appelle l'usine 3.0, sur les essais de cliniques. Ils avaient acheté une boîte aux États-Unis qui s'appelle Medidata. La boîte, il y a une croissance de 10% attendue cette année. Il faut entre 33 et 35% de rentabilité. Il y a une situation financière très saine. Ça valait 45 fois les bénéfices, c'est tombé à 25 fois les bénéfices. Je pense que si on n'achète pas Dassault Systèmes sur les niveaux actuels, on n'achètera jamais Dassault Systèmes. Donc je pense que si les marchés repartent à la hausse, que je crois quand même, Dassault Systèmes sera une de celles avec ST Microelectronics dont on parlait avec Louis, qui devrait également fortement progresser.
Si vous avez d'autres, c'est le moment, là, on a un peu de temps.
Saint-Gobain.
Saint-Gobain, j'ai entendu. ST Micro, vous m'avez dit.
Oui, ST Micro, LVMH.
Vous avez dit Hermès, LVMH.
Je ne les mets pas dans mon portefeuille.
Non, je comprends, mais si aujourd'hui.
Schneider Electric, quand même, qui a perdu aussi 35% depuis le début de l'année et qui est massacré. Peut-être Apple, quand même, qui vaut 14 fois les bénéfices aux États-Unis. C'est le moment d'y aller.
Est-ce qu'il y a des secteurs qu'il faut éviter à tout prix?
En fait, il faut faire gaffe à tous les secteurs sur lesquels on risque de se faire cogner sur des hausses de coûts, sur une chaîne logistique qui est pas bonne. C'est là où la technologie est intéressante, le cloud particulièrement, c'est qu'il n'y a pas de matière première induite, il n'y a pas de chaîne logistique sur laquelle on risque. Donc la seule inflation, c'est celle des salaires, mais c'est automatiquement réajusté dans les prix, donc c'est du vrai pricing power. Donc il faut vraiment se concentrer là-dessus, parce qu'effectivement, on est dans un monde incertain, ça, il faut le reconnaître, on est dans un monde incertain.
Agroalimentaire, il faut éviter quand même, parce qu'ils auront un problème pour répercuter la hausse des prix, sauf peut-être Nestlé, la distribution, et puis surtout, tu évites, mon cher Emmanuel, si tu ne veux pas être ruiné, les biotech, parce qu'on a eu encore un premier semestre, un carnage boursier, mon cher Marc.
Carnage
boursier. Et puis on évite les boîtes qui sont trop endettées, qui ne sont pas encore rentables, etc., etc. Il y en a quand même un certain nombre.
Je vous remercie, c'était une...
Bonnes vacances, Marc.
Je crois
que vous partez pour un long moment.
C'était une belle saison.
Non, mais il faut en parler.
Alors, la question, c'est est-ce que vous voulez revenir l'année prochaine?
Avec plaisir.
Valentine, ça vous a pas choqué tout ce qui a été dit? Non, parce que moi, j'ai très peur parce que je me suis dit, on l'a perdu, là, quand je l'ai entendu partir. Vous revenez?
Oui, avec plaisir.
Bon, Louis, on décidera de notre côté pour savoir si on vous réinvite. Eric aussi. Bon, Emmanuel, il est incontournable.
Il fait partie des meubles.
Donc, merci à tous. Merci donc à tous les invités. On se retrouve donc la saison prochaine. Alors, il va y avoir énormément de nouveautés. Enfin, vous n'allez pas reconnaître l'émission. Et elle va être complètement exceptionnelle. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter et nous voir ou revoir en replay et podcast sur RMC, BFM Play et toutes les plateformes de podcast. Et ça cartonne. Je vous souhaite un bel été. On va rediffuser cette émission en septembre, le 1er septembre.
1er septembre.